Et bonjour à toutes et tous, nous sommes sur le stand de Funforge, mais les personnes que je vais interviewer sont sur le stand de Funforge parce que bah, y a une espèce de synergie, parce qu'ils sont dans la même veine, c'est-à-dire porter, faire une espèce de bridge entre le jeu de société et le jeu vidéo, on va dire. Hein. Je suis en compagnie donc de Christophe Duteil et de Valentin Lefebvre. Donc bonjour Christophe.
Bonjour.
Et bonjour Valentin.
Salut.
Alors, je vois une espèce de chose absolument incroyable sur la table, ça s'appelle un Epawn Arena, donc voilà. Epawn, E-P-A-W-N comme un pion. Et donc on a une espèce d'écran, allez, soyons très pragmatiques, c'est une télévision sur laquelle on met des pions et il se passe quelque chose, hein, en gros. Donc racontez-moi un peu l'histoire, je ne sais pas qui veut commencer. Allez, on va commencer par le CEO de la société, donc Epawn, Christophe.
Eh bien en fait, c'est un rêve de joueur, ça. L'idée c'était de trouver une solution qui permette d'être suffisamment large pour pouvoir jouer à plusieurs, d'avoir des vrais pions, les vrais pions qu'on aime aux jeux de société, mais de faire évoluer ça sur un univers dynamique et interactif. Et bien effectivement, c'est une télé qui peut gérer ces objets qui vont bouger dessus. Alors Valentin va peut-être expliquer un petit peu en deux mots comment ça marche.
Ouais. Juste un truc, c'est que la télévision, on va appeler ça une télévision, mais on va finir par appeler ça Epawn. C'est une Epawn Arena. Elle est déposée sur la table, comme on dirait un plateau de jeu en fait.
Oui, c'est ça, c'est l'idée. Il faut que ce soit le plus fin possible. Bon, là, c'est encore un proto. Ouais. On pense qu'on va encore diviser par deux l'épaisseur à peu près. Et effectivement, c'est manipulable comme un jeu de société. Ouais. Tu sors ça de ton armoire et tu peux commencer à faire une partie. Ouais.
Ouais. Sauf qu'on peut mettre des centaines de jeux de société.
Ah, oui, oui. Alors moi, je fais le parallèle avec les e-books. Ouais. C'est un peu l'e-reader du jeu de plateau. Voilà. Donc effectivement, tu pars en vacances avec ton Kindle. Ouais. Bah, l'idée, c'est que tu vas partir en vacances avec ton Epawn Arena et avec tes 30 jeux. Ouais. Alors ça va même aller encore plus loin. On va peut-être être les premiers utilisateurs des écrans souples. Parce que les gens qui font des écrans souples, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire. Donc ça, typiquement, tu vas l'enrouler. Ça va peut-être faire 1 mètre carré d'ailleurs. Tu vas l'enrouler, tu partiras en vacances et tu le dérouleras dans le train, dans ton chalet, où tu veux. Et là, du coup, ça deviendra encore plus léger, encore plus sympa à transporter. Donc le brevet qu'on a déposé là, en fait, on est déjà souple, nous. Donc maintenant, je fais un peu de la technique. On met une surface sous l'écran qui est souple et qui est composée, en gros, de lignes et de colonnes. Et on a un circuit intégré spécifique qui s'appelle un ASIC qui, en fait, calcule très, très vite les positions de tout ça et envoie ça au smartphone ou bien à la tablette. Et alors, le principe, c'est qu'une fois que ça, c'est fait, ben, finalement, ça revient très peu cher à fabriquer. Et comme disait Christophe, le prix de ça, c'est finalement, grosso modo, le prix de l'écran qui drive beaucoup le prix de revient final. Voilà.
Et c'est un point important parce que ce rêve-là qu'on a eu, on a voulu qu'il soit partageable, que les gens puissent l'acheter. Aujourd'hui, il y a des solutions qui font ce genre de choses, moins bien que nous d'ailleurs, à des prix délirants. Je ne le citerai pas pour ne pas faire de peine, mais
Parle quand même de 25 000 euros pour celui dont on ne parle pas.
Exactement. On parle bien de ça. Nous, on vise finalement quelque chose qui va être au prix d'un écran de télé, entre 300 et 400 euros pour une surface de 26 pouces, qui est le prix standard de ça. Et un point important, c'est que on veut aussi être une plateforme pour avoir le plus de jeux possible. Et notre écran, là, c'est finalement un accessoire de smartphone, d'iPad, on peut y connecter un PC. Finalement, les jeux vont tourner sur ces centres de calcul, et nous, on se charge de l'affichage et de ce qu'on sait faire, traquer des objets. Et pour les gens qui vont faire des jeux, les éditeurs, eh ben pour eux, c'est facile. Ils connaissent déjà les systèmes d'exploitation iOS, Android. Ça leur coûte très très peu de temps d'adapter des jeux existants ou de nouveaux jeux à notre solution, ce qui finalement leur permet de faire des jeux innovants avec des vrais objets, très très facilement. Donc on a pensé à eux aussi, en plus des joueurs, c'est qu'ils vont pouvoir faire des jeux facilement pour nous.
Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que l'Epawn, c'est vraiment la plateforme de jeu, mais en fait le software, le jeu lui-même tourne sur un iPad qui est connecté en Wi-Fi. Ici c'est un Wi-Fi, mais ça pourrait être autre chose.
Alors ça pourrait être, là pour l'instant on est Wi-Fi, ça pourrait être aussi Bluetooth. Ouais. On est parti sur le Wi-Fi pour l'instant parce que pour être Bluetooth, il faut être partenaire Apple. Et comme c'est un peu le début là, de ce device, on va les voir. Donc pour l'instant, en Wi-Fi, ce qui est bien, c'est qu'on peut se connecter au périphérique Apple sans demander l'autorisation.
Voilà. Et on pourrait même être plusieurs iPod ou iPad et partager des choses sur le jeu.
Oui, complètement. Là, y a un iPad qui sert à faire tourner le jeu. Vu qu'il y a un réseau Wi-Fi sur lequel on interagit, on pourrait imaginer des gens avec des smartphones à côté qui interagissent, qui ont une fiche de personnage sur leur iPhone, etc., etc. Bien sûr. En fait, on ouvre avec ça des possibilités incroyables pour tous les game designers. En fait, le jeu va changer, fondamentalement.
Alors, on a un troisième truc qu'on va bientôt montrer. Alors, j'invite les gens à regarder notre site web, hein, ipone.fr ou bien iponearena.com.
Ça, c'est fait.
Ouais, c'est fait. donc, ça sera bientôt en ligne, j'espère, dans les prochains mois. Oui. C'est que, comme on capte le mouvement, oui. on a envie aussi de greffer de la robotique. D'accord. Et on veut mettre des araignées, des tanks, des trucs comme ça, qui vont se retrouver à se déplacer tout seuls. Et alors, avec maintenant la reconnaissance vocale sur les smartphones, tu vas pouvoir te mettre dans ta chaise longue et tu vas dire, je voudrais que mon char rouge, il attaque le char bleu. D'accord. Et tu vas aller voir commencer à se battre tout seul. Évidemment, tu auras toujours tes pions que tu pourras manipuler, mais il va y avoir un environnement. Mm-hmm. Parce que tout le monde nous demande aussi la 3D. Oui. Et nous, on se dit que la 3D, alors on peut le faire si on veut,
c'est
mais...
déjà en 3D.
C'est déjà en 3D. Et justement, de la 3D qui va devenir dynamique, ouais, ça va être aussi des choses, des pions qui vont bouger tout seul. Donc
c'est très fort.
Voilà, on est un peu fou, mais on pense que ça peut être sympa.
Juste pour parler un peu technique encore, là il y a une vraie figurine sur un socle spécifique, ouais, qui est déposée sur l'écran. Oui, en fait, finalement, le fait de déposer sur l'écran envoie un touch à l'iPad.
Ouais, c'est ça. Non, alors, un touch.
C'est pas vraiment un touch parce que ça marche même quand je vole au-dessus de l'écran.
Ouais. Et ouais. C'est pas le touch Apple, on va dire, non, parce que là on parle d'iPad. Voilà. C'est le capacitif ou c'est le.
C'est pas du capacitif, c'est pas du RFID, c'est pas de l'infrarouge.
C'est de l'électromagnétique.
Mon Dieu,
il a dit, il a avoué.
C'est incroyable. Ok, mais donc vous êtes ici avec votre prototype. Le but ici, c'est de montrer que ça existe.
Alors, c'est de montrer que ça existe, c'est de montrer que ça tourne pour de vrai, qu'on a des vraies surfaces, qu'on est vraiment dans l'univers des jeux de société où on peut avoir des vraies grandes pistes plaisantes. On n'est plus dans le petit périmètre réduit de l'iPad, qu'on a des vrais objets, qu'on peut avoir plein d'objets simultanément, et que vraiment, ce qu'on attendait à un prix abordable, ça va être possible, et on donne rendez-vous aux gens dès 2012 quand on va les vendre pour de vrai.
Donc, prix abordable, on parle du prix d'une, entre guillemets, d'une dalle de ce prix-là, c'est 400 euros.
Oui, voilà, c'est l'ordre de grandeur.
On espère entre 300 et 400, on va voir.
C'est le prix d'une console de jeu de société.
Exactement, on est exactement dans ce périmètre-là.
Allons-y, faisons une petite démonstration, même si c'est audio, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Donc, là, on a un jeu qui est Inventorium, qui est encore un prototype, alors, je pense.
Ça, pour l'instant, c'est pas encore c'est non, pas Inventorium.
Je retire ce que j'ai dit.
Démonstration. On va lancer Inventorium.
Ok.
Alors.
Donc là, on est sur l'iPad,
voilà,
et
sur
on
l'iPad,
lance le jeu.
On lance le jeu, exactement. Donc attends, je vais d'abord enlever le précédent. Voilà. Et là, je lance l'application Inventorium qui est faite par Funforge Digital. Là, tu vois, il y a quatre codes de contrôle.
Peut-être point important, c'est qu'Inventorium, c'est un jeu fait par Funforge. C'est un jeu à deux joueurs. On manipule qu'avec les doigts. Et là, on l'a porté rapidement en une nuit. On a pris notre SDK, on l'a porté sur leur jeu. Et on a transformé un jeu à deux joueurs avec des doigts en un jeu pour quatre joueurs, puisqu'on a une grande surface. Et on manipule des vrais pods qui permettent de faire de la mise. On va pouvoir miser sur des objets directement, sans traîner un point vers un objet, directement en allant.
Ouais, par exemple, on touche la dalle avec des pions spécifiques qui ont un con. Oui.
Là, je suis le pion bleu, tu vois, et ça va apparaître en bleu. Ouais. C'est parce que c'est reconnu automatiquement.
Ouais, c'est ça.
Et ça, c'est un plus qu'on a par rapport au touch où tu ne sais pas reconnaître un doigt d'un autre doigt.
Donc ça veut dire que les pions, les figurines ont une identité propre.
Exactement, on sait les reconnaître entre eux. Et ce qui est important, typiquement, là, je reconnais vraiment le pion du joueur bleu versus le joueur vert. Et ça change un petit peu la donne, on n'est plus des doigts anonymes, on commence à avoir des objets connus. Alors, on parle de ce jeu-là, sur d'autres types de jeux, on pourrait reconnaître la pièce blanche aux échecs de la tour blanche du roi noir, ou bien le petit monstre du guerrier, etc., etc. Ça n'a pas de fin.
Alors ça, c'est des applications évidemment en jeu, on imagine qu'il y a d'autres extensions en milieu d'entreprise, ça peut être aussi extraordinaire.
Oui, pour les serious games, ça peut marcher. Aussi, on pense bien sûr, ça peut être pour les militaires, pour les salles de commandement, il peut y avoir plein de choses, vas-y, tu peux compléter.
On a aussi beaucoup creusé tout ce qui est éducation, notamment pour les plus jeunes, qui vont pouvoir avoir des logiciels ludo-éducatifs, avec des objets qu'ils vont manipuler, avec leurs petits doigts, et en ayant tout l'aspect éducatif de l'information qui va remonter sur l'écran. Et alors, si on pousse le raisonnement plus loin, on va aussi jusqu'aux formations d'entreprise, avec notamment des formations collaboratives où les personnes peuvent mettre des situations au bureau, par exemple, ce genre de choses, et traiter ce type de cas.
Dans un registre totalement différent, on n'est pas obligé d'avoir un écran, ça peut être une surface qu'on enroule, et par exemple les tapis d'éveil, c'est un gros marché, alors là c'est plutôt les 4-6 ans, tu vas avoir des objets à manipuler par les enfants, et tout d'un coup le smartphone va lui dire, mais attends, le cube il faut que tu le mettes dans telle configuration, etc. Mmh. Donc c'est aussi un autre marché, voilà, qui peut être. Il y a beaucoup de choses avec ce brevet qui peuvent être intéressantes.
Fondamentalement, ce qu'on a remis au goût du jour avec ce genre de choses, c'est réutiliser l'objet comme l'interface avec n'importe quel système informatique. C'est vraiment ça.
Le fait que ce soit... Allez, le terme jeu vidéo devient de plus en plus petit, il ne veut plus de moins en moins dire quelque chose.
Exactement, c'est jeu.
Mais c'est très bien tout ça, messieurs. Donc la société Ipone a été créée pour ça, parce qu'elle a le nom de l'objet.
Exactement, elle a été créée l'an dernier, en 2010, et vraiment pour ça, avec cette idée en tête, et qu'on décline maintenant sur différentes formules. Valentin disait avec ou sans écran, pour des domaines comme le jeu, ou bien d'autres domaines comme l'éducation, etc. Mais fondamentalement, elle a été créée pour avoir ces objets manipulés dans notre périmètre.
Quel est votre background tous les deux avant la création de cette société ?
Alors on est des techniques, nous les deux. On s'est d'ailleurs connus il y a très très longtemps, il y a une bonne dizaine d'années avec Valentin, au sein d'un groupe français qui s'appelait Thales. On faisait des simulateurs ensemble. Et moi après je suis parti faire la téléphonie 3G, donc j'ai un profil de directeur de programme. Et ça manquait un petit peu de fun tout ça, donc je suis allé dans le jeu. Et Valentin a une belle histoire aussi à raconter.
Oui, bah moi donc après Thales, j'ai monté une boîte qui s'appelle Total Immersion, qui fait de la réalité augmentée. Qui marche pas mal en France et j'ai eu la chance après 10 ans de bons et loyaux services de pouvoir un peu sortir de ça et de remonter à une nouvelle start-up, hein. Donc je suis très très heureux.
Voilà. Je pense qu'effectivement quand vous voyez le monde qui tourne autour de cette chose là, sûr que je pense que ça ira bien. Messieurs, donc on se retrouve en 2012 dans un an avec non plus le prototype mais le produit fini,
avec un chèque de 350 €, c'est bon.
Exactement, ça veut dire que vous le vendrez sur place?
Ah bah idéalement oui.
Ça serait génial et on te fera un prix, t'inquiète pas.
Ah, ça c'est bien. Parfait, donc c'était Christophe Duteil et Valentin Lefebvre de Ipone. Et messieurs, à l'année prochaine.
À bientôt.
Salut, à bientôt.
Vous avez aimé ce podcast? Alors appuyez sur la touche Trop Cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.